au long de cette semaine, Radio Ondaine vous propose du lundi au vendredi à 13h un programme sur les addictions. Une série d'émissions avec des professionnels de santé, des acteurs de la prévention, réalisées par Radio Ondaine en studio ou en extérieur et même autour d'ateliers d'éducation aux médias et à l'information. À retrouver en rediffusion sur le 90.9 FM et sur notre site internet www.radio-ondaine.fr. Pour débuter cette semaine autour des addictions sur l'antenne de Radio Ondaine, nous vous proposons d'entendre un entretien avec le docteur Aurélia Gay, psychiatre et chef du service psychiatrie transversale et addictologie au CHU de Saint-Étienne.
Alors, on va parler d'addiction quand on va avoir une impossibilité répétée de contrôler un comportement, que ce soit la consommation d'une substance ou un comportement comme jouer au jeu de hasard et d'argent. Et que cette impossibilité répétée de le contrôler va donner lieu à une poursuite de ce comportement en dépit des conséquences pour la personne, que ce soit des conséquences sur sa santé physique, sa santé psychique, ses relations avec les autres, sa vie professionnelle, familiale, des conséquences financières, parfois légales, pas toujours. C'est vraiment les deux critères principaux qu'on utilise pour définir l'addiction. Donc il faut qu'il y ait cette perte de contrôle, un impact fonctionnel pour la personne. Et un élément clinique aussi assez important qu'on retrouve souvent, c'est le besoin impérieux, irrépressible de consommer ou de réaliser le comportement et qui s'impose à la personne et qui va souvent donner lieu à la réalisation du comportement.
Alors l'addiction touche qui, d'une manière générale? Est-ce qu'il y a finalement des personnes qui sont plus à même de devenir dépendants à quelque chose, ou est-ce que finalement ce comportement qu'on peut avoir, ce besoin qu'on peut avoir, tout le monde peut être concerné dans sa vie?
Alors on dit souvent que le développement d'une addiction, c'est la rencontre de trois facteurs, à la fois d'un produit ou d'un comportement avec ses vulnérabilités propres, d'un individu qui aura aussi ses vulnérabilités propres, et à un moment donné, dans un environnement socio-culturel donné. C'est vraiment la rencontre des trois. C'est-à-dire que, alors, il y a l'individu va avoir des facteurs de vulnérabilité propres qui vont le rendre plus ou moins susceptible de développer une addiction, mais c'est pas l'individu tout seul, c'est la rencontre de ces trois facteurs. Donc j'ai envie de dire que effectivement, tout le monde pourrait développer dans cette conjoncture de facteurs une addiction à un moment donné.
Alors dans le langage courant, l'addiction nous renvoie très vite à la drogue, à l'alcool, la cigarette, on l'a aussi, mais effectivement ça renvoie aussi à des choses un peu illicites, interdites, si on parle de drogue. Comment on fait la part entre ces produits illicites, mais également tout ce qui est en vente à peu près libre? Comment on gère ça?
C'est bien de rappeler qu'en termes de santé publique, les addictions qui vont concerner le plus de monde, avoir le plus d'impact, ce sont des substances licites. C'est le tabac, l'alcool, et après, en troisième, en termes de consommation, on va retrouver une substance illicite qui est le cannabis. Et après, on assiste actuellement à une montée en puissance de la cocaïne qui s'est très très largement diffusée. Vraiment, le gros de nos consultations, les nouveaux arrivants, on a beaucoup de demandes de consultes autour de la cocaïne. Mais en tout cas, c'est bien de rappeler qu'effectivement, il y a une grosse part. Parce qu'on a en tête, dans les représentations, ça compte beaucoup ces représentations dans la société autour du terme d'addiction, justement les substances illicites. Mais il y a principalement tabac et alcool au premier plan.
Alors ici nous sommes donc à l'hôpital, au CHU, à l'hôpital Nord de Saint-Étienne. Le parcours du patient qui fait la démarche de venir vous voir, d'ailleurs, est-ce que c'est une démarche que l'on fait soi-même, ou est-ce que on est guidé vers vous, et quel est le parcours à partir du moment où on franchit la porte?
Alors, il y a différentes possibilités d'orientation. Le patient peut venir de lui-même. Il peut être aussi beaucoup poussé par son entourage, parce qu'il y a tout un premier travail en addicto qui est de prendre conscience du trouble, ce qui n'est pas toujours évident, mais ça fait partie de notre boulot d'addictologue, d'équipe soignante, d'amener le patient à prendre conscience qu'il y a des difficultés autour du produit, autour du comportement. Donc, des fois, ça peut vraiment venir du patient lui-même, de son entourage, des fois de la justice, ça arrive aussi. Et ensuite, il n'y a pas besoin d'être adressé par un médecin. Quand on a une demande de soins, on peut se présenter directement sur les lieux de consultation. Concernant la consultation, il y a un gros service de consultation qui est le XAPA hospitalier, l'UTDT, qui est à l'hôpital Bellevue, pour tout type d'addiction, que ça soit substance ou comportementale. Et on a également de la consultation hospitalière qui se fait à l'hôpital Nord quand il y a de l'alcool uniquement et pour tout ce qui est demande de tabac uniquement.
Alors, lorsqu'on se sent dépendant d'un produit, d'un comportement, c'est un cheminement qu'on doit faire dans sa tête. Comment vous, et les différents personnels, vous amenez le patient, alors en prise de conscience, il l'a déjà, mais le soin, quel est-il en fait ?
C'est une prise en charge qui est globale, médical, psychologique, il y a beaucoup d'interventions psychothérapeutiques en fait, hein, notamment tout ce travail motivationnel que vous venez de décrire, d'amener le patient à changer, et aussi une prise en charge sociale associée. Et on se fixe, donc c'est toujours individualisé, on s'adapte beaucoup à l'agenda, aux besoins du patient, et c'est une prise en charge qui est très horizontale, un partenariat, on travaille ensemble pour amener le patient à changer autour de ses consommations. Et je pense que c'est maintenant bien acquis, mais depuis des années, on est sorti du dogme de l'abstinence par rapport aux addictions et on va souvent travailler par des étapes de réduction des risques, de réduction des consommations avant d'aller ou non vers une abstinence totale vis-à-vis du produit ou du comportement.
Dans la même idée, aujourd'hui, quelle place prend l'entourage du patient dans son parcours de soins, entre guillemets ?
Alors, il faut qu'il y ait un entourage de présent parce que bien souvent, hélas, faut redire que c'est pas rare que les patients arrivent après un long parcours d'addiction. Et à des moments, hélas, ce long parcours d'addiction, on a vu que les conséquences, elles peuvent être dans tous les domaines et notamment les patients, ils peuvent s'isoler, puis avoir beaucoup d'entourage pour les soutenir. Quand il y a un entourage qui est présent, le prend en compte, on essaie de l'accompagner au mieux parce qu'on sait qu'un entourage présent et soutenant, c'est un facteur pronostique positif pour les patients, ça va aider à aller mieux et plus rapidement. Et donc on essaie de les accompagner aussi, et depuis maintenant le mois de novembre, il existe un groupe à destination de l'entourage des patients qui a lieu une fois par mois, un groupe ouvert où l'entourage des d'ailleurs patients ou même à destination de l'entourage de personnes qui ne sont pas encore prises en charge dans notre filière de soins, il n'y a pas de souci. C'est un groupe de parole qui est animé par des soignants de la filière addictologique du CHU pour les accompagner au mieux.
Alors, lorsqu'on parle d'addiction, ce sont des habitudes, finalement, et puis un réflexe qu'on peut avoir, et puis un chemin où il est difficile d'en sortir. Si l'on considère les jeunes, adolescents, jeunes adultes, qu'est-ce que vous constatez ? Est-ce qu'il y a des phénomènes d'addiction et de dépendance à certains produits qui peut-être sont plus visibles aujourd'hui ? Je vais aller directement au protoxyde d'azote. Alors c'est un comportement à risque plus qu'une addiction au départ, mais est-ce que ce sont des phénomènes que vous constatez aujourd'hui sans trahir, bien sûr, le secret médical ?
Alors pour répondre sur le protoxyde d'azote, on ne les voit pas trop encore arriver en consultation. Déjà, il faut peut-être que je resitue que quand vraiment les populations les plus jeunes, on les oriente plutôt vers la consultation jeunes consommateurs de nos collègues de Rimbaud. Donc, y a aussi ce biais-là, c'est qu'on a moins, on n'accueille pas de mineurs, sauf vraiment dans le cadre de relais avec nos collègues de pédopsychiatrie. Et les jeunes adultes autour des consommations les plus usuelles, tabac, alcool, cannabis, ils sont plutôt orientés vers la CJC. Après, pour le protoxyde d'azote, on peut les rencontrer dans le cadre de l'activité de liaison, parce qu'on a une équipe de liaison en addictologie qui va intervenir du coup dans le service des urgences et dans les différents services du CHU de Saint-Étienne. Et c'est plutôt là, quand il y a des complications physiques, qu'on va rencontrer ces problématiques autour du protoxyde d'azote, mais il n'y a pas encore de demande en consultation tellement.
Alors on parlait de l'entourage tout à l'heure, on arrive en période de fête où forcément on arrose des repas et on peut être en compagnie de quelqu'un de sa famille, de son entourage qui peut avoir des problèmes d'alcool, etc. Est-ce qu'on conseille des choses à l'entourage dans ces périodes-là ?
Alors, pour l'entourage de patients qui ont des problématiques addictives, vous voulez dire, identifier, alors après, on va vraiment travailler individuellement sur comment communiquer, parce que c'est pas facile pour l'entourage d'avoir ils nous ont souvent cette demande de la bonne posture, de quoi faire. Là, c'est difficile de vous répondre, de vous donner une réponse univoque, mais c'est plutôt comment rester présent à sa place d'entourage sans se substituer aux soignants, mais en étant aussi des partenaires dans ce parcours de soins. C'est beaucoup de travail sur la communication aussi, sur parce que bien souvent elle est très altérée autour des problématiques d'addiction, c'est comment transmettre son inquiétude sans rentrer dans des communications dysfonctionnelles.
Il y a aussi depuis quelques années des choses qui se développent comme la paire aidance, finalement, avec des personnes qui étaient dépendantes d'alcool souvent. Hein. La paire aidance, c'est aussi important d'avoir un exemple de personne qui a vécu un parcours un peu similaire.
C'est effectivement super intéressant de pouvoir s'appuyer sur des pères aidants. Nous, on aimerait bien... Alors, actuellement, on n'a pas de pères aidants qui travaillent sur notre filière addictologique au CHU. Mais on sait qu'on aimerait bien pouvoir faire intervenir des pères aidants, notamment dans tout ce qu'on a en prise en charge groupale, que ça soit dans notre unité d'hospitalisation complète ou à l'hôpital de jour, ou même dans... On propose aussi du groupe thérapeutique indépendamment de l'hôpital de jour. Et on sait que... l'exemple des pairs, le support, le soutien par les pairs, ça fonctionne très bien. Et donc, effectivement, c'est des dispositifs très intéressants.
Ce projet est réalisé par Radio Ondaine et soutenu par la préfecture de la Loire dans le cadre de 1000DK, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.